Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
Parce qu'en immobilier, pour être à son affaire, suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute.
Cube Radio.
Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir et bienvenue à un autre épisode des Antipodes de la lutte. Pat Laprade, Fred Poirier, K.R., Kevin Raphaël.
Yes! On est dans le building pour 800 podcasts d'affilée.
On est surtout pas loin du temps des fêtes. C'est notre dernier podcast régulier des Antipodes avant les fêtes. On vous rappelle un peu l'horaire du temps des fêtes, là. Le 21 décembre, donc jeudi prochain, ça va être un spécial québécois. On va avoir 3 entrevues pour vous avec des lutteurs québécois. On va avoir Evil Uno, on va avoir Daddy Magic, Matt Menard, et on va également avoir Mike Bailey. J'allais oublier le troisième. Mike Bailey. La semaine suivante, c'est Les Pots et les Fleurs avec l'ami Bertrand Hébert. Et la première de janvier, ben c'est le podcast spécial Place Belle qu'on va mettre en ligne le mercredi qui va suivre. Donc, nous, on revient dans notre case horaire régulière le 10 janvier, donc le 11 janvier, jeudi le 11 janvier, pour ceux et celles qui nous écoutent. Parlant de la Place Belle, Kev, on a une paire de billets à faire tirer pour le 28 décembre, house show à la Place Belle, WWE. Et écoutez bien le podcast, il y a une question qui va arriver à un moment donné. Qui va... Vous allez devoir avoir la bonne réponse.
On a combien de temps, Antipode Live?
C'est une bonne question.
Parce qu'on a fait le premier à Le Temple.
Le premier à Le Temple.
On a fait celui à Gatineau.
Le deuxième, on l'a fait au Beer Market.
Beer Market, le troisième à Gatineau.
Le troisième à Gatineau.
Fait que là, c'est le...
Quatrième.
Deux à Québec.
Ah, c'est vrai, on a fait deux à Québec.
Deux à Québec, Fred.
Fred for the win.
Fait que là, ça fait premier à Laval, deuxième à Beer Market,
troisième... En fait, je pense que le deuxième, c'était à Québec.
Ouais, deuxième Québec.
Le troisième à Beer Market, le quatrième...
À Québec.
Non, le quatrième à Gatineau, c'est en juin.
T'as raison.
Le cinquième à Québec.
Puis là, on est rendu à 6.
Wow. C'est Ultimate Warrior contre Hulk Hogan.
Je vais mettre Antipode 7.
Ben, c'est le sixième.
Ah ouais, mais trop un autre match, est-ce-tu?
Ben là, WrestleMania 6, c'était pas une grosse carte.
Mais nous, on va avoir une grosse carte.
Le géant ferré, c'est à Toronto. Le géant ferré, il se tourne pas contre Aku et Bobby Heenan à WrestleMania 6.
Namatata?
Il me semble.
Fred!
Aku, je viens de comprendre. Et tout ça pour dire que, écoutez bien le podcast, il va y avoir une question un peu plus tard à l'émission pour gagner une paire de billets pour la WWE à Laval. Antipode Live. Billet en vente là. Sur le point de vente, faites Antipode.
Ouais, tu tapez Antipode, comme d'habitude.
Antipode et vous allez trouver les billets seulement 10$ et c'est pour vrai place réservée. Kev, dis-moi, je me trompe, c'est debout, hein?
On essaie d'avoir des sièges.
OK.
Il y a une possibilité d'avoir des sièges. Elle est très forte en ce moment.
Bon.
Ça dépend juste combien ils vont me dire ça coûte.
Parfait. Ça se peut qu'il n'y en ait pas beaucoup, ça se peut qu'il n'y en ait pas, donc prévoyez ça. C'est ouvert à tous âges.
Mm-hmm.
Et ça va se passer le 28 décembre.
Mm-hmm.
À la Place Belle. C'est où exactement à la Place Belle, Kev, pour que
ça s'appelle les coursives, là.
Oui.
Quand vous rentrez à la Place Belle, à la porte principale, là, pas celle du Rocket, là, celle où il y a le gâteau mato, là.
Mm-hmm.
Oui.
Qu'est-ce que tu veux dire? Pas la rentrée principale.
Tu sais, t'as une entrée principale.
L'entrée principale, là.
Ouais, où il y a la billetterie. Puis tu sais, t'as une autre entrée qui est un petit peu plus loin. Où...
À droite, comme.
Exactement. Là.
Oui.
Ça s'appelle l'entrée des tenteurs de billets de saison.
Oui.
Bon, ben, là-bas, c'est le petit chemin le plus rapide pour se rendre aux coursives. Dans le fond, on va être où il y a entre la glace de 500 places puis la glace de patin de vitesse.
Donc, plus proche, mettons, du boulevard Concorde.
Non, pas Concorde. Non.
Pas Concorde, c'est l'autre rue.
T'as l'autre en haut, là.
Non, mais pas Claude Gagné non plus, c'est la rue Le Corbusier.
Oui, exactement.
Oui.
Exactement.
Exact.
Pas loin. Mais il va y avoir quelqu'un dehors qui peut vous diriger, là. Mais. Okay. Stressez pas avec ça, là.
OK. Mais bref, c'est là, comme tu viens de l'expliquer. Et puis, c'est à 16h. On commence à 16h. Jeudi le 28 décembre, on va avoir des invités qu'on va vous, on va peut-être vous dévoiler d'ici là sur les réseaux sociaux. Peut-être que vous allez avoir des surprises seulement.
Puis tous ceux qui suivent Keybook, vous allez avoir l'exclusivité. Vous avez l'étiquette en bas.
Vous avez déjà eu. Vous avez déjà eu ceux qui sont sur Keybook. Vous avez déjà eu l'exclusivité des billets.
Mais qu'est-ce que je voulais dire par contre?
Oui.
J'ai oublié. Ouais, c'est ça, ça. C'est pas grave qui vient pas. On vous donne tout le temps un show de malade.
Absolument.
Tout le temps des shows uniques. Donc,
un bon 90 minutes pour vous, de 4 à environ 5 et demi.
Et puis, soyez pas en retard parce qu'on va être vraiment tête parce qu'on risque de faire le show à la Place Belle.
On risque pas. C'est pas mal sûr.
OK, mais.
Qu'on va ouvrir comme on fait habituellement dans les.
Scoop!
Comme on fait habituellement dans les house shows à Québec ou à Laval, on va être appelé à ouvrir l'événement pour vous et à mettre de l'ambiance dans cette Place Belle-là durant le temps des fêtes. Donc, bien content.
C'est un beau cadeau de Noël à donner à quelqu'un de venir voir les Antipodes avant le show de la lutte. Là, tu sais, même si les gens qui connaissent pas les Antipodes, vous dites « Ah, moi, je suis fan des Antipodes, mais ma blonde ou c'est pas moi, mes kids ou whatever, amenez-les, on va avoir du fun ensemble. » Puis c'est pour ça qu'on est là, man.
Non, absolument. C'est un show qui est toujours bien, bien le fun à faire. Et puis, voilà. On espère vous retrouver en grand nombre le 28 décembre, sans restriction, Kev. Jason Mass?
Ouais, Jason...
Gros big time, ça.
J'en ai deux, donc... Jason Moss est venu sur le podcast me jaser...
L'entraîneur des Alouettes, pour ceux qui le savent pas.
L'entraîneur Grey Cup Champ, il est venu le 2 décembre, pendant qu'on enregistrait sans restriction de luxe, juste avant. Donc, j'ai eu la chance de lui jaser, puis il m'a donné beaucoup d'insights sur la façon qu'il coach, la façon qu'il travaille, puis qu'est-ce qu'il va amener culturellement parlant aux Alouettes de Montréal. Puis
le coach de football, Antoine, devait triper, là.
Ah oui, puis c'est ça qu'on a jasé après, juste lui puis moi, puis j'ai dit, j'ai hâte qu'il vienne en studio ou qu'il vienne dans mon vestiaire, qu'on puisse take a drink and talk football. Là. Mm-hmm. J'ai aussi sorti Marie-Lou Morin. L'actrice, vous la voyez dans Indéfendable en ce moment, elle a joué dans Cochon dingue. On parle de beaucoup de choses. Une des bonnes discussions qu'on a eues à propos du hockey, à propos de la toxicité du hockey. Elle m'a même dit tantôt, j'espère que ça va pas créer trop de polémiques. Peut-être que ça se passe bien, mais on a dit qu'est-ce qu'on pensait les deux, puis j'ai même révélé des histoires. So.
Ah oui?
Oui.
Hey, le Deluxe que j'ai fait, il va passer quand, est-ce que tu sais? T'as-tu une idée?
C'est Fred qui monte.
C'est en janvier, j'imagine?
Oui, c'est janvier. Okay. Je pense que c'était le deuxième Deluxe, deuxième ou troisième.
Et en passant, juste avant d'aller aux nouvelles, j'ai une mise à jour pour le nombre de billets de la Place Belle. Donc, on est déjà rendu à 6637.
Ah!
6137 billets distribués. La dernière fois qu'il y a eu un événement là, c'était le 20 août dernier, on le sait, avant le Raw à Québec, et il y avait 7012.
Wow!
Donc, on risque de battre le house show du mois d'août. Le setup est fait pour 8000 en ce moment.
Wow!
Fait que pour vrai, là...
Yo, je suis fier de ma ville, man!
Ouais.
Vous êtes en train de show up for real, man!
Bien content,
je suis content
de ça. Les nouvelles. Je vais te parler des finances des j'ai oublié des affaires. Mais c'est correct. Je commence avec les finances des EW, puis ça tombe bien. Je vais revenir sur la EW un instant. Parce que, bon, tu le sais, la semaine passée, notre podcast a fait beaucoup jaser. Parce qu'on a été quand même critique sur bien des trucs avec EW. On a été fair.
Ouais,
on a donné les bonnes choses, mais on a aussi critiqué. On se le cache pas. Et je veux juste revenir, parce qu'on en a eu des commentaires à gauche, à droite, là, des gens plus intenses que d'autres, d'ailleurs, là, qui nous ont envoyé 8 tweets d'affilée,
ouais,
là, à un moment donné.
Ces gens-là m'ont collé, j'ai pas répondu.
À un moment donné, là,
c'est l'affaire, là, moi, je réponds quand ça fait du sens.
Quand c'est intelligent, ce que vous
quand
avez
dit. Quand c'est juste dire de la merde pour dire de la merde, puis dire qu'on connaît rien, puis dire qu'on chante tout le temps. Quand Monday Night Raw était de la calisse de merde, là.
On le disait
à chaque fucking jour. Ouais. À chaque Antipode, on venait ici, puis on disait que c'était de la merde. Mais il y a personne qui disait rien. Il y a personne qui disait rien. Ça froissait personne. On bâche, c'est pas grave. Mais quand on critique quelque chose qu'on aime, ah ben là, si on est des mange-mardes. Hey, lâchez-moi, là.
Et en fait, le commentaire que je déteste le plus là-dedans, c'est ah ben on sait bien, vous commentez la WWE, vous êtes pas objectif. Ce qui a rien à voir. J'ai couvert des pay-per-view des EW que j'ai trippé ma vie et j'en ai parlé en bien. Je veux dire, ça n'a absolument rien à voir. 4994 pour EW, pour Dynamite, c'est pas mauvais quand tu le prends dans son ensemble. Tiens, mais ça aurait pu être mieux, puis c'est ça qui est fâchant.
Ben, c'est ça.
C'est parce que la promotion, si la promotion avait été meilleure, ça aurait pu être mieux. Puis le choix d'Arena, ben, il était questionnable. Ils ont voulu rusher le show. Ils l'ont mis entre Minneapolis puis Texas, alors qu'ils auraient dû attendre, puis s'assurer que la place Belle soit libre, et puis de le faire, là. L'autre chose, c'est quand t'as des vedettes, faut tes annonces, ou faut que tu les montres. Tu sais, on a parlé, là, la semaine passée, que Jericho était pas là, Ricky Starks était pas là, Ric Flair était pas là, Sting était pas
MJF.
Là. MJF était backstage. Il y a eu des rumeurs comme quoi MJF était pas à Montréal. Il était à Montréal. Il a pris une photo avec Jean Trougeau. Il était à Montréal. Il est pas sorti une fois. C'est la première fois que tu viens dans le marché. C'est ton champion. Il est là. Puis tu... Tony Khan, quelqu'un m'a envoyé un message, chef. Il est sorti 7 fois en 2 soirs. T'aurais peut-être pu remplacer Tony par MJF une de ces fois-là. Je dis ça, je dis rien. Mais en plus, il n'y avait pas Brett. Il n'y avait pas Edmund Page. Les Young Bucks, bon, ils sont pas là ces temps-ci, mais ils n'étaient pas plus là. Anna Jay, Julia Hart, les Hardys. Tu regardes ça et tu te dis, crime, ils sont-ils venus avec un show B? Ben... C'était pas ça. Parce qu'il y en a plein d'autres vedettes, mais en même temps... Pour la première fois à Montréal, tu sors tes gros canons. Et ceux qui sont juste venus à Dynamite, j'ai du monde qui m'ont écrit, nous, on a juste été à Dynamite, on n'a pas vu Kenny Omega. On voulait voir Kenny Omega, on l'avait
jamais
vu. C'est vrai,
c'est vrai, c'est vrai.
Tu sais, il y a des trucs comme ça que, bon, à un moment donné, il y a quelqu'un qui m'a écrit, tu vas capoter. Il a payé son billet par terre, première rangée, $818.
Hey! Possible.
Il dit, je travaille au Costco depuis 1 an et je gagne juste 20$ de l'heure. Alors oui, c'est assez frustrant d'entendre qu'un gars paye 40$ pour au parterre. Mais il dit, j'ai trippé ma vie, mais c'est frustrant.
Mais il faut qu'on le comprenne. Là. C'est 810$, c'est beaucoup d'argent. Là.
C'est beaucoup d'argent. Puis c'est correct, mais lui, tu peux être sûr qu'il se fera plus avoir 2 fois.
Ben, moi, je me suis fait avoir. Il n'y avait aucune chance que j'achète des billets d'avance.
Puis, tu sais, on n'est pas en train de dire que ça a été un échec à Montréal. C'est juste que ça aurait pu. C'était pas un succès non plus.
Ça aurait dû être mieux. C'est ça qu'on dit.
C'est une opportunité manquée, AEW à Montréal cette année. C'est pas catastrophique, mais ils auraient pu faire mieux. Puis espérons qu'ils vont apprendre leurs erreurs pour Québec. Ils sont déjà sur la grosse promotion pour Québec, là.
Ah ouais?
Alors, il y a des. Toutes les radios, quasiment, ils donnent des billets, ils parlent de la vente, parce que la mise en vente des billets se fait. Je pense que la pré-vente, c'était aujourd'hui.
Ah, OK, bon.
Et puis, les billets sont en vente demain.
Mais je te l'ai dit, Gestev, c'est autre chose, là. Dans leur marché, ils sont extrêmement forts.
C'est peut-être plus Gestev qu'AEW, d'abord. Mais
oui,
Gestev,
c'est sûr que
Gestev a pris des notes de ce qui s'est fait à Montréal.
Ben, moi, je suis pas sûr que Gestev ait écouté le podcast.
Ah, ben là, tu connais des choses que je sais pas.
Moi, je sais pas mal tout.
Ah, ouais, Gestev écoute le podcast.
Regarde, on s'en parlera, là. moi, je peux te dire que j'ai eu quelques discussions avec quelques gens, pas nécessairement de Gestev en tant que tel.
OK.
Mais il y a des gens qui ont pris des notes, disons.
Bon, ben, correct, ça. C'est correct, ça. Bon, fin de la parenthèse. Les finances des EW. Notre collègue Brandon Thurston de WrestleNomics a sorti. Il a fait une estimation des finances des EW basée sur toute l'information qui est là et que lui a accès. Et il a estimé que pour l'année 2023, EW aurait fait 154 millions en revenus nets. Une amélioration parce qu'en 2022, on parlait de 100 millions. Par contre, c'est 34 millions de pertes pour l'année 2023. Il aurait fait 68 millions avec la télé. Et ça, c'est en incluant l'ajout de Collision. Et ce que Brandon prévoit pour l'année 2025. Parce que là, dans le fond, c'est que WBD, là, Warner Brothers Discovery, avait une option pour l'année 2024. Tu sais, sur le fameux deal du début, là, le 175 millions sur 4 ans, sur 5 ans plutôt. Non, sur 4 ans, il y avait une 5e année en option, qui était 2024, qui ont exercé. Alors, pour la télé en 2024, en 2023, plutôt, on parle de 68 millions. Et puis, pour 2025, Brandon prévoit que ça va doubler. Il prévoit 140 millions. Et là, ça serait un game changer. Parce que ça viendrait éponger la perte en entier. On ferait de l'argent avec AEW. Donc, 2025 risque d'être une très, très grosse année à ce niveau-là. Évidemment, si on les compare avec les autres dans le marché, la WWE a fait 1,3 milliard dans les 12 derniers mois où on a les données.
Combien?
1,3 milliard de revenus, comparativement à 154.
Ouais, mais là, attends, faut faire attention. Là, c'est les pommes puis les oranges.
Absolument. Et je vais te comparer avec New Japan, juste pour situer AEW dans le marché.
Ouais, mais parce que la face, encore une fois, c'est des pommes puis des oranges.
Non, je le sais, mais c'est quand même les trois plus grosses compagnies de lutte au monde. T'es d'accord là-dessus?
Oui.
Bon, c'est juste pour comparer. Je compare pas négativement, juste pour donner un ordre de grandeur. Quand on vous dit WWE, c'est beaucoup plus gros qu'AEW. Ça, c'est un exemple.
Okay.
Et New Japan, eux, c'est 36 millions de revenus. 36 millions. Donc, t'as 36 millions New Japan, t'as 154 AEW, donc t'as 5 fois plus, puis t'as 10 fois plus du côté de la WWE. L'écart est grand entre 1 et 2 et entre 2 et 3.
Puis j'aimerais vraiment ça savoir les chiffres d'impact.
Je serais curieux moi aussi.
Surtout avec Endeavor qui embarque là.
Je serais intéressé d'avoir les chiffres d'impact. Moi j'ai l'impression que c'est pas plus. C'est sûr que c'est pas plus qu'AEW. Par contre, par contre, est-ce que c'est plus que New Japan? Ça c'est une bonne question.
Je pense pas que c'est plus que New Japan.
Si vous entendez du bruit en passant,
on
a une longue soirée de podcast parce que on fait un paquet de shows pour le temps des fêtes, c'est notre dernière. Et pour pas que vous entendiez Kev dire j'ai faim, podcast est long, ben il y a de la bouffe qui vient d'arriver.
Du fromage et du vin.
Oh non, c'est plus un double cheese de chez McDo. Mais bon.
Non, mais là, c'est parce que j'ai pris la décision qu'on commandait parce que on est là pour un bout, là.
Ouais.
Fait que.
Et ouais.
Si vous voulez pas m'entendre chialer, je vais manger.
Exact. Donc voilà, je trouvais ça intéressant quand même. Honnêtement, je suis abonné à son Patreon maintenant à WrestleNomics. Ouais. Pour vrai, moi, le gars de stats en moi, le gars de chiffres, le gars de finances, de tout ça, là, je trippe ma vie avec tout ce qu'il donne comme contenu.
C'est sûr.
Ouais, pour vrai. Sami Zayn, faut en parler, Kev, parce que bon, la nouvelle est sortie dans la dernière semaine. Il aurait il a demandé du temps. Pour prendre un congé. Il a demandé un congé du temps off, là. Il a demandé un congé. C'est Dave Meltzer qui a sorti la nouvelle. Je peux vous confirmer que oui, effectivement, il a demandé un congé. On ne sait pas quand le congé va prendre effet. Mais ce que je peux vous confirmer, ce que je peux vous dire, c'est qu'il va être là à Laval. Donc, peu importe ce que vous lisez ou entendez, je peux vous confirmer que Sami Zayn va être là le 28 décembre à la Place Belle à Laval. Maintenant,
bon, c'est positif.
Ben ça c'est positif. Est-ce que son congé va être pris au début de l'année? C'est possible. Mais c'est sûr que sans Kevin Owens, parce qu'on sait que Kevin est du côté de SmackDown, je pense que c'est important d'avoir au moins un des deux Québécois. Et puis je pense qu'on va travailler dans ce sens-là.
Oui, alors, puis après ça, il peut prendre congé. Venez faire le show à Laval, puis retourner prendre congé après. Là,
ça pourrait arriver aussi. D'ailleurs, on l'a pas vu à Raw cette semaine. Je serais surpris qu'on le revoie à Raw. Ça se peut que le show de Laval soit...
Ils ont fait le injury angle.
C'est ça.
Puis, ils en ont fait référence plusieurs fois à Raw.
Exact.
Donc...
Ça se pourrait même qu'il lutte pas à la Place Belle.
Ça se pourrait.
Tu sais, mais je vous le dis, il va être là. Donc, Sami va être à Laval. CM Punk, parlant de Raw. CM Punk a choisi Raw. Et j'avais pas réalisé, Kev, qu'on était à Cleveland, à Raw.
Ouais.
Tu sais, avant, quand ils l'ont mentionné, je trouvais, oh shit! Parce que bon, pour ce que vous suiviez, le lendemain du Royal Rumble, c'était un Raw à Cleveland, quand CM Punk a quitté en 2013. Et là, il revient, c'est son deuxième Raw, et c'est à Cleveland. Mm. C'est quand même assez spécial. Il choisit Raw. As-tu aimé ce qu'ils ont fait avec CM Punk qui se promène, qui va à SmackDown, qui va à NXT.
Ben oui, parce que ça amène des yeux à SmackDown, ça amène des yeux à NXT.
Ça fait jaser.
C'est pas négatif. On savait tout ce qu'elle allait être à Raw, on savait tout ce qu'elle allait être contre Seth Rollins. Les gens, c'est des hosties d'imbéciles, là, par exemple. Là.
Qu'est-ce
si vous
dire?
Voulez que je sois à SmackDown, faites du bruit. Ouais! Si vous voulez que je sois à Raw, faites du bruit, boo. Quand Raw venait dans sa ville, là, dans la même ville que tu viens de faire boo à Raw, tu vas faire non? Genre, c'est, ça faisait aucun sens dans ma tête, ce bout-là, mais c'est pas de la faute à CM Punk. Mais je sais pas si tu veux parler du segment tout de suite tantôt.
Oui,
mais,
oui, non, non, on va en parler maintenant.
Mais Seth Rollins a sauté CM Punk. CM Punk était même pas proche de Seth Rollins au micro.
Ben, moi, je trouvais que les deux avaient été bons.
CM Punk, là, ça allait partout, sa promo. On n'a pas tout. Il y avait pas de fil conducteur à sa promo. C'était au point que je vais m'excuser. Mais tu sais, il a parlé d'Indie Hartwell, il a parlé de telle affaire, puis tu fais comme, mais Big, parle-moi d'une chose, là.
Sa promo à SmackDown était bien meilleure.
Ben oui, sa promo à SmackDown était excellente.
La promo à SmackDown, c'est la promo que j'aurais voulu avoir à Raw le lendemain du Survivor Series.
Oui, mais était excellente la promo à SmackDown.
T'sais, t'sais, à SmackDown, quand il a dit, tu sais, il a dit la phrase, je peux pas croire, en parlant de Kevin Owens, que vous laissez des gens frapper des gens backstage comme ouais. Ça, on est en 2023. C'était le petit mordant qu'on voulait de CM Punk.
Mais c'était pas juste cette phrase-là. Moi, c'était pas tant ça, mon point, par rapport à la promo, là. Tu sais, je trouve que, tu sais, il a parlé de tout le monde. Il a fait des flèches à tout le monde. Ouais. Il a dit, c'était mon wise man avant d'être ton wise man.
Ouais.
Fait que plein de petites choses comme ça que je trouve vraiment intéressantes.
Ouais, il a parlé de Roman, il a parlé de Seth, il a parlé de tout le monde.
Maintenant, à Raw, il s'est fait exploser par Seth Rollins. Seth Rollins est arrivé avec son plan, toute son explication, puis là, t'avais pas de réponse. Il dit, je vais être Royal Rumble, fine. Puis sa promo avant, elle faisait pas de sens. Puis, je comprends pas. Puis, là, ça fait 3 promos qu'il fait, là. Pourquoi CM Punk est rendu qui parle de lui à la 3e personne?
C'est vrai.
Je comprends pas. Mais comment tu veux être atteignable puis être un ultimate babyface? C'est toi-même qui parles de toi à la 3e personne. C'est heel, ça. Fait que...
Le segment, par contre, il a été vraiment écouté. Il y a eu une montée de 380 000 quand c'est venu le temps de cette promo-là. Et après la promo, ça a baissé 450 000. T'imagines? Ça a été à Fox, à SmackDown. Le show a fait 2,38 millions, 16,6% de plus que le SmackDown précédent. Il bouge. T'sais, on vous disait qu'il bougeait l'aiguille, CM Punk.
Ouais,
ben, c'est ça. Il bouge l'aiguille. NXT, j'ai adoré qu'il arrive là avec. Il fait une promo avec Shawn Michaels, il arrive là avec un hoodie de Bret Hart. J'ai adoré.
C'est un troll, ce gars-là. Là, c'est un troll.
Mais c'était drôle, tu sais, puis ça a fait réagir Sean. Ben oui, tu sais, c'était bien fait. On l'a vu à Raw énormément, Punk. On l'a vu backstage avec le Judgment Day, avec Drew puis Adam
Pearce. Le Judgment Day, ça me dérange pas, parce qu'il y a l'affinité avec Dominique, là, quand il essayait d'intimider Dominique. Fait que déjà là, on a une potentielle histoire là, puis je présume que de ce qu'on lit des house shows, Dominique va être le premier. Moi, c'est l'interaction avec Kofi Kingston, avec Ricochet.
Puis Chad Gable.
J'ai pas compris cette affaire là. OK? Ça, j'ai pas compris ça, puis.
Mais on essaie de le rendre sympathique.
On essaie de faire ça. Hey, le vestiaire l'aime!
Le vestiaire l'aime, puis il est le fun backstage.
Mais sa joke était fucking poche à Kofi. Moi là. C'est comme si quelqu'un venait me parler en black, là. Moi, c'est comme ça que je l'ai pris.
Mais j'ai l'impression, peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression que c'est un inside entre les deux.
Ouais, mais on n'est pas vous!
J'ai l'impression qu'il le saluait comme ça dans le temps.
Mais on n'est pas là, nous. Puis il a fini par dire « I heard you're bad at video games » à Ricochet. Mais ça sort de où? Ricochet joue aux jeux vidéo quand?
Non, c'est pas ça qu'il a dit.
Oui, c'est ça qu'il a dit à Ricochet.
Non, il a dit, j'ai entendu que tu sortais d'un jeu vidéo en voulant dire qu'il était hyper spectaculaire.
Moi, j'ai entendu qu'il était bad at video games.
Non. Okay. Je suis sûr, c'est ça qu'il a dit.
OK.
Donc, je comprends.
Mais l'interaction était quand même shit.
On essaie de nous l'enfoncer dans la gorge comme Babyface.
Ouais.
Avec Drew et Adam Pearce, au moins, il y avait un sens parce que tu vas. Drew pourrait être un adversaire à CM Punk éventuellement.
Ben dans quelques après WrestleMania.
Non, éventuellement. Ouais. Mais ça a du sens d'avoir une interaction tout de suite. T'sais. Puis avec Adam Pearce, c'est bon aussi parce que les deux ont commencé ensemble. Là. Lui, Cole Cabana, Ace Steel, c'était les gars de Chicago qui ont commencé ces indies
ensemble. Ouais, mais ça, il nous l'explique pas, ça.
Il le dit quand même qu'il connaissait CM Punk depuis 25 ans, Adam Pearce. Dans le ring, il le dit. Il dit, ça fait 25 ans que je le connais. Okay. Donc, peut-être qu'il aurait pu en faire plus, mais il l'a au moins mentionné. Puis tu l'as dit tantôt, il commence sur les house shows. D'ailleurs, bien des gens se demandent s'il va être à Montréal. Pas à Montréal, mais à Laval. Je pense pas. Je serais bien surpris.
Non, il sera pas à Laval. Il était à Madison Square Garden avant.
Je serais bien... Non, mais... Ben oui, mais il est pas booké le 28, là, techniquement.
Non, mais dans ce que... Je pense pas qu'ils vont le mettre à Madison Square Garden lutter puis à Laval après.
Je serais surpris. Il fait MSG puis il fait le Kia Forum.
C'est ça. Je pense pas qu'il va lutter les trois soirs. Là.
Non, exactement. Moi non plus. Puis il était backstage à NXT, à Deadline. Pas à Deadline, mais au taping d'NXT de mardi.
OK, ouais.
Puis, les nouvelles qui sont sorties, c'est qu'il était là juste pour hang out. Il a donné du feedback au talent. Tu sais, si c'est ça, Punk, on s'entend, il y a des trucs à raconter. Tu sais, il y a du knowledge à partager.
Ben oui, il peut aider le backstage. Là. Il peut
surtout,
aider le backstage.
Surtout à NXT.
Ouais.
Fait que s'il s'implique comme ça, puis ça finit par durer, ben.
C'était un bon circuit à WWE. Tant mieux. Ils n'ont rien à perdre. Au pire, ils coupent. Fait que c'est. WWE fait juste récolter en ce moment, puis Triple H, il a fait le bon coup.
Parlant d'NXT, Dragon Lee est le nouveau champion nord-américain.
Ouais.
Bon. Le match était bon. Dragon Lee est très, très bon. Là, on en a déjà parlé ici. La seule chose, c'est que ça fait deux fois que Dom perd le titre à NXT quand son clan n'est pas avec lui. Fait que j'ai juste trouvé que c'était un peu paresseux comme angle.
Ben non, il...
Mais pas comme angle, mais comme changement de titre.
Ben non, sans son clan, il est focasse, là. Ça fit, là.
Mais à ce moment-là, pourquoi son clan n'est pas là?
Ben là,
après la première fois, pourquoi...
Ils ont pas expliqué pourquoi son clan était pas là.
Mais il aurait dû.
Mais il aurait pu expliquer pourquoi. Puis peut-être qu'ils l'ont expliqué, puis je l'ai pas entendu.
Mais moi, je l'ai pas entendu.
Mais le point est que c'est ça le...
Non, mais visiblement, c'est ça. Mais en même temps, pourquoi il y a pas au moins une... Son cinq dans le clan. Pourquoi il y en a pas un qui était là?
Comme je dis, moi, j'ai pas entendu l'explication. Je présume qu'ils l'ont expliqué. Je peux pas croire qu'ils l'ont pas expliqué, là.
Non, ça, moi, je l'ai pas entendu.
Mais moi, je l'ai pas entendu non plus.
Il y avait Rey Mysterio au commentaire, mais justement, encore plus, si tu sais que Rey Mysterio est au commentaire, il aurait dû avoir quelqu'un. Donc là, d'accord. Même s'il y a une raison, même si on dit une raison, je suis pas mal sûr, je suis pas d'accord avec la raison, parce qu'il aurait dû avoir quelqu'un. Là.
Moi, je suis d'accord avec toi.
Dragon Lee, je me demande si Dragon Lee, je me demande en fait si Wesley devait gagner le titre.
Alors, suite à sa blessure, là?
Ben là, il est blessé pour 8 à 12 mois, Wesley.
Ouais, pis c'est
Dragon Lee, c'est son frère qui l'a remplacé. C'est une joke de Lee, là, c'est pas vrai, là.
Mais c'est pas sûr, là. C'est le sûr à l'air bad, là.
Non, mais c'est ça. Mais je me demande si, à la base, Dominic devait perdre le titre ou si on a décidé de le changer. En mettant Dragon Lee, on a dit, OK, mais on va donner un push à Dragon Lee.
Parce que moi, mon seul problème avec ce changement de titre-là, c'est que Dragon Lee est fermement à SmackDown.
Ouais.
Fait que dans ma tête, il avait comme fini son excursion.
Je pensais, moi aussi.
Puis là, on le ramène, mais peut-être à cause de la blessure à Wesley, puis qu'il n'y en avait pas d'autres de crédit pour battre Dominic, ils ont mis Dragon Lee.
Trent Seven, et puis Kushida, qui signe avec TNA. Bon, parlons de Trent Seven.
Yo, that Impact Money, hein?
Ben oui. Qu'est-ce que c'était d'Impact Money?
Ben yo, il signe quand même deux, tu sais.
Ben oui. Non, absolument. Trent Seven, que vous avez vu dans le temps avec NXT UK, entre autres. Mais il a fait l'équipe avec Mike Bailey. C'était, dans le fond, le partenaire surprise du Québécois contre The Rascals. Et puis ensuite, Scott D'Amore, il a annoncé qu'il avait signé Trent Seven. J'étais surpris de savoir qu'il avait 42 ans.
Ouais, mais il a l'air vraiment plus jeune que ce qu'il a l'air, là.
Ouais.
Mais il est comme Randy Orton. Randy Orton n'a pas l'air d'un 40-quelque ans, là.
Ouais, ouais.
Fucking frigidaire, là.
Et puis, ben c'est ça, donc Trent Seven qui s'en va avec TNA. Il a expliqué, Trent Seven, qu'il avait vraiment passé proche de signer avec AEW.
Okay.
Puis il dit, à un moment donné, il dit, tiens, le timing est pas là. Tu passes proche. Puis là, à un moment donné, les gens font d'autres affaires. Puis là, il essaie de planifier un show à Wembley. Puis là, ben, il y a d'autres affaires qui tombent dans des cracks. Puis c'est ça qui arrive. Fait que clairement, ce qu'il était en train de dire, c'est qu'il a négocié cet été. Puis là, ben, Tony a été occupé à planifier son show à Wembley.
Il y a pas de talent relation là-bas.
Puis là, il a tombé dans les cracks. Puis il n'a plus jamais entendu parler.
C'est fou, ça.
Kushida, lui, a expliqué que même s'il signait avec TNA, qu'il était pour garder sa relation de travail avec New Japan, que ça change absolument rien, et qu'il avait signé à TNA parce qu'il est très ami avec Motor City Machine Guns, Alex Shelley, Chris Sabin, et qu'il n'en revenait pas de pouvoir dire que lui, Shelley et Sabin vont travailler ensemble à TNA.
C'est cool, ça.
Ben, c'est cool. Et puis ça donne des fois, tu sais, on oublie de ces gars-là. Shelley, Sabin sont là depuis tout le temps.
Depuis toujours, la nuit des temps.
Alors, c'est sûr qu'à un moment donné, il y a des gars qui ont travaillé avec dans le passé, qui vont vouloir retravailler encore. Puis ben ça, c'en est une belle preuve. Puis
Sabin a bonne réputation.
Oui. Oui. Sabin, oui.
Je dis Sabin.
Oui. John Cena et MJF qui ont pris une photo ensemble.
Au tapis rouge
d'Aaron Klaw. Ouais. Aaron Klaw qui est en avant-première, d'ailleurs... Ce soir.
Ben, je t'ai supposé, mais.
Ben, moi aussi. Mais. Hein? Ben oui, je sais bien. Mais, moi, j'ai eu quelque chose pour le 21.
Le 21, quoi?
Ben, dans le fond, il va être présenté dans des cinéplex Odéon ici au Québec le 21. Fait que, peu importe qui a communiqué avec toi, si tu veux y aller, demande-leur. Moi, ils m'ont donné une passe.
Ouais.
Mais c'est sûr, je vais le voir.
Non, je vais aller le voir au cinéma quand ça va me tenter, là.
C'est sûr. Ben, ça va être au cinéma, là.
Non, mais là, c'est quand que ça sort?
Je sais pas à partir de quand il va être
régulièrement. Mais c'est avant le 28, c'est sûr.
Mais en tout cas, moi, ce que je te parle, c'est le 21. Ouais. C'est jeudi la semaine prochaine. Bref, Aaron Klaw, évidemment, on vous parle du film sur la famille Von Erich qui avait sa première à LA. Cena et MJF, là, qui prennent une photo ensemble, c'est spécial.
Non, mais les gars savaient qu'ils allaient briser l'Internet, là. Puis moi, j'ai adoré le fait que il y avait pas grand commentaire sur la photo. Là. C'était juste, prenez la photo de tout le monde, puis gérez-vous vous-même. T'sais. Puis là, il paraît que Ken Jeff a été coté du film. Là.
Ben, y a,
ces scènes ont été coupées. Là.
Pas toutes, mais le rôle il est moins important qu'il pensait au début.
Ben,
ça arrive. T'sais, Lance Von Erich, c'est pas le personnage le plus important dans l'histoire de la famille Von Erich. C'est plate, mais c'est ça.
Oui, mais qu'est-ce que je veux dire, c'est que et à la fin de la journée, MJF colle les épaules avec un Zac Efron, avec un John Cena, avec un, tu sais, des gros réalisateurs. Ouais. Fait que ça, c'est bon pour lui sur le long terme. Là.
Il y avait quand même plusieurs anciens lutteurs. Ben, pas anciens, mais il y avait plusieurs personnalités de la lutte à la première. Il y avait CJ Perry, Liv Morgan qui a interagi avec MJF d'ailleurs. Il y avait Baron Corbin qui était là.
Ouais. Mais tu sais, après ça, faut mettre un grain de sel sur. Il a pris une photo avec John Cena.
Non, mais c'est juste...
À un moment donné...
Non, mais c'est parce que c'est un gars qui est très AEW.
Mais ça change quoi?
Ben, c'est juste rare. C'est honnêtement, pour les fans, je peux comprendre. Ramène-toi dans les années WCW, WWF.
Mais on n'est pas dans ces années-là. Moi, c'est ça mon point.
Mais quand t'as deux... Je sais pas.
Tu sais, dans une ère où on voit des photos de tout le monde avec tout le monde, qu'il n'y a pas vraiment de kayfabe, qu'il n'y a pas vraiment.
Mais celle-là, on la voit pas, cette photo-là.
Ouais, mais il n'y a pas. Dans le sens que il n'y a pas de kayfabe. Il n'y a pas de. Je protège ma compagnie à tout prix, puis de. Non. Je suis en guerre avec l'autre compagnie. Moi, j'étais juste comme. Ben, ils ont pris une photo ensemble, OK. Moi, c'est comme ça que je l'ai.
Visiblement, c'est pas de même que les gens l'ont vu parce que
c'est ça, mais.
Brisé Internet.
Ben, c'est ça. Moi, c'est pour ça que je dis. Des fois, mettons. Que je vais pas pour raconter ça, mais des fois, il y a des choses qui sont faites, sachant
qu'est-ce que. Qu'est-ce que t'allais pas raconter?
Sachant que ça va briser l'Internet, mettons, puis que t'es mort de rire après, puis t'es comme, si les gens sont caves, là.
Ouais.
On a juste pris une photo, là, tu sais. Fait que,
mettons toi puis Ludivine au Centre Bell.
Je sais pas de quoi tu parles.
Hey, mais par contre, on parlait de la présentation du film. La NSPW va présenter une. Avec les cinémas Le Clap, ils s'associent pour avoir une projection spéciale le 19 décembre prochain.
Ah, cool.
À Québec, donc à 18h30. Et puis, après la présentation du film, il va y avoir un Q&A avec des vedettes de la NSPW, Steven Sullivan, cool. Matt Falco, Michel Plante, Pee-wee et Lou O'Farrell. Donc, allez voir sur les réseaux sociaux de la NSPW si vous êtes dans la région de Québec. Et je lisais aujourd'hui sur Rotten Tomatoes, il y avait juste 45 reviews, là. Ça vient de sortir. Mais le pourcentage était à 93% positif. Ça va redescendre, là. Mais c'est quand même assez, assez élevé. Bien, bien hâte de le voir. Je vous en reparlerai l'année prochaine.
L'année... Ah, OK.
Ouais. Ben oui, parce qu'on n'aura pas d'autres antipodes.
Non, moi, j'en parle à Radio-Can, là. Fait que je vais le mettre sur mes réseaux sociaux.
T'en parles à Radio-Can quand?
Le 28 décembre.
Vous êtes live à Radio-Can? Vous n'êtes pas en vacances?
Non. Pas en vacances. Pas en vacances. C'est sur le show de
fin d'année?
Non, de quelqu'un d'autre. Vous checkerez mes affaires, là.
Mais ça, on va se le dire?
Non, c'est pas on va se le dire. C'est un show de radio.
OK. Ah, show de radio. Ouais. OK, je comprends.
Eugénie Lépine-Blondeau.
Ah oui, la sœur de...
Magali.
De Magali. Je parlais de Baron Corbin, était à la première de Iron Claw. Mm-hmm. Il était également...
Il était avec T-Swizzle, hein?
Il était avec Taylor Swift dans sa loge.
Pour moi, cette photo-là est plus importante que la photo de John... Non, mais c'est vrai...
C'est parce que c'est random, tu t'attends pas à voir Baron Corbin
Baron
là.
Baron Corbin, c'est un gros fan des Kansas City Chiefs. Vraiment gros.
Oui, mais en plus, c'est un des bons amis de Travis Kelce.
Ah, tu vois, je savais pas que c'était un des bons amis de Travis.
C'est pour ça qu'il était dans la loge. C'est Nick Osman de House Wrestling qui a sorti ça parce que tout le monde se demandait pourquoi Baron. Puis je savais Travis Taylor Swift avait beaucoup de ses cousins dans la loge durant cette game-là. Mais je disais, peut-être que c'est qui cousin. Je veux dire,
Mercedes Money,
cousine avec Snoop Dogg. Il est peut-être cousin avec Taylor Swift.
Si Taylor Swift et Baron Corbin étaient cousins, puis que la WWE l'apprenait. Man, la toune de Baron Corbin, ça serait 22 en esti son entrée.
Ah non, t'as raison. Mais bref, c'est ça, c'est un ami à Kelce, puis c'est pour ça qu'il était là. Et puis, t'as-tu vu ce que... Tu sais, Pat McAfee, il connaît aussi depuis longtemps Baron Corbin.
Ouais.
T'as-tu vu ce qu'il a fait comme tweet?
Roommate.
Tu sais ce qu'il a mis comme tweet? Il dit, from bum-ass Corbin to hanging with billionaires in suits, what a come up. Ah, donc ça aussi, ça a fait beaucoup jaser. L'infirmerie. Tu l'as-tu updaté, Fred? Non, c'est la même. Je pense que tu l'avais tweaké. Atina a confirmé qu'elle avait un nez cassé à Montréal.
Ben, elle l'a confirmé puis elle a enlevé le tweet après.
Ah, pour vrai?
Elle a mis le tweet puis elle s'est fait chicaner parce qu'elle a enlevé le tweet après.
Tabarnouche, j'étais pourtant très visible. Tu sais? Mais elle dit qu'elle va quand même faire Final Battle qui est en fin de semaine. Donc, ben, c'était clair là, pour nous. Moi, j'étais deuxième rangée, là. Toi aussi. Ah non, toi, tu l'as fait. T'étais-tu parti?
Moi, j'étais bien parti.
Ah, t'étais parti. Mais c'était clair là, qu'elle avait le nez cassé. Il n'y avait pas de doute là-dessus. Maintenant, Charlotte Flair se serait également blessée. Ben, elle s'est blessée à SmackDown. Donc, elle avait de la misère là, à mettre du poids sur sa jambe gauche et le genou. Même, elle a eu de la misère à faire le figure 8. Là.
Ouais. Genre, je pense qu'elle a fini le match. Là. Ça, c'était pas très beau, là.
Ouais, mais tu sais, il y a l'adrénaline là-dedans, puis tu sais, elle pense peut-être que
c'est pas si
c'est
pire.
Pas si
que
pire.
Ça, ouais.
Donc, on sait pas encore, on n'a pas de diagnostic, on sait pas pour combien de temps ou si elle va manquer du temps, mais clairement, là, elle a eu de la misère. Il y a également Thunder Rosa, du côté des AEW, qui a annoncé qu'elle était prête à revenir. Donc, elle attend juste que le boss l'appelle.
Que Tony Khan fasse une histoire.
Puis mais par contre, il y a une rumeur à l'effet qu'elle pourrait revenir le 23 décembre, donc la semaine. C'est-tu la semaine prochaine? Ah oui, non, à Collision. C'est ça, à Collision le 23 décembre. Donc dans deux samedis. Parce que Collision est à San Antonio, au Texas.
Ah, okay.
Et Thunder Rosa, bon, je sais pas si elle vient de là originalement, mais sa promotion de lutte féminine, Mission Pro Wrestling, fait des shows à San Antonio. Donc si t'es pour la faire revenir. Ouais. Fait la revenir.
Ils vont sûrement mettre Lance Archer sur le show. Ils le mettent juste sur les shows au Texas.
Ouais, Lance Archer, mon Dieu, c'est la dernière fois qu'on l'a vu.
Mais au Texas. Je te dis, c'est vrai. Il est juste sur les shows du Texas, sinon il est des fuck.
T'es-tu sérieux? On n'a pas vu Thunder Rosa. Pas Thunder Rosa, mais Lance Archer depuis.
Mm-hmm. Si on l'a vu, c'est juste une fois.
Elle vient du Mexique, là, Thunder Rosa, là, en passant. Mais, oui, mais San Antonio, c'est roule, comme San Antonio, c'est comme sa deuxième maison, je pense. Lance Archer, t'es-tu sérieux?
Moi, je pense qu'on l'a peut-être vu une autre fois à part le Texas.
Lance Archer, on l'a vu à AEW, là, évidemment, parce qu'il a fait des affaires avec New Japan.
Ouais.
À AEW, il a fait ici Oakland en Californie, Wichita au Kansas.
Mais c'est quand?
Ça, c'est en novembre. Je te jure que Oakland, c'est le vieux Longueuil de San Francisco.
Fred!
T'attendais tout ce temps-là que je nomme Oakland!
Ou Longueuil!
Wow! On fait jouer ça!
J'ai juste vu Fred se dépêcher!
Je te jure que Oakland, c'est le vieux Longueuil de San Francisco.
Mettons à Dynamite, là. Moi, quand je pense à Dynamite, là.
OK.
Ça va pas Rampage ou Collision.
À Dynamite, la dernière fois, c'était à Rosenberg au Texas au mois d'octobre.
Cold.
Et la fois d'avant, c'était à Milwaukee.
Quand?
Au mois de juin.
Yo, c'est fou, là.
Ouais, au mois de juin, dans un. Hey, en équipe avec Chris Jericho, contre John Moxley puis Hiroshi Tanahashi.
Aucun souvenir de cette affaire-là.
C'était le 22 juin, donc c'était avant Collision. C'était probablement le Dynamite juste avant Collision.
Ah, peut-être. Je me suis cogné le genou, man.
En 2022.
Hein?
Excuse-moi, juin 2000. OK, wow. Fait que Lance Archer a fait octobre 2023 Dynamite.
Ouais.
Puis avant ça, sa dernière présence à Dynamite, c'était en juin 2022.
Ça n'a pas de sens.
Wow.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
Parce qu'en immobilier, pour être à son affaire, suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute.
Le Temple de la renommée de la lutte au Québec, j'ai comptabilisé les différents votes du comité. Et je suis très, très fier de dire qu'il y a deux nouveaux intronisés dans le Temple de la renommée. Le Québécois René Goulet.
Nice.
Et le néo-brunswickois, je me trompe-tu? Il vient du Nouveau-Brunswick, Léo Burke. Donc, Léo Burke qui est intronisé également. René Goulet, rapidement, j'ai avoir un article là, sur tvasport.ca, mais René Goulet, dans le fond, c'est vous avez un scoop, là, Fred? C'est un scoop. Oups.
Scoop! Scoop!
René Goulet, le pire, là, c'est que lui, là, on a su qu'il était décédé. C'était en 2019. Il était décédé au mois de mai. On l'a su au mois de décembre. Par hasard, quasiment par quelqu'un sur le web qui en avait parlé. Puis moi puis Greg Oliver de Toronto, on le croyait quasiment pas. Et puis, à un moment donné, j'ai réalisé que ben même moi, j'arrivais plus à rejoindre René Goulet. Quelqu'un que quand même j'ai gardé contact avec à plusieurs reprises. Il avait commencé à lutter au Québec, puis principalement à Québec. Puis à un moment donné, en 63, il y a un match contre Madoc Vachon. Madoc Vachon, il dit, voyons, il dit, tu devrais, tu sais, aller lutter ailleurs si tu veux gagner ta vie. En 63, le territoire ici va pas super bien. Puis c'est Mad Dog qui a booké René Goulet à Minneapolis. Puis René Goulet, il avait dit à sa femme, si ça marche pas, je fais autre chose de ma vie. Oh. Et il a été après ça 40 ans dans le monde de la lutte.
C'est fou, ça.
C'est fou, hein?
Moi, j'aime ces histoires-là.
Il a été un peu partout.
Follow your dream!
Il a été... en 71, il a remporté les titres par équipe de la WWF, à l'époque, avec Carl Gotch. Et puis, les plus jeunes vont se rappeler de lui comme agent à la WWE.
Ouais.
Il venait souvent séparer les bagarres, tout ça. C'était un des lieutenants de Pat Patterson, donc il était Pat Patterson qui était son patron. Et puis il était là quand même assez longtemps, jusqu'en 97 qu'il a été là. Moi, je l'ai rencontré à une reprise en Caroline, où il habitait. Puis après ça, ben, je l'appelais souvent. Puis il me disait toujours, il me faisait rire. Il me disait toujours que il joue au golf. Puis là, il essaie toujours de jouer plus bas de son âge. Fait que là, tu sais, il veut pas, il est mort à 80 quelques années.
Plus bas que son âge, c'est bon,
ouais,
ça.
Ouais, 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 c'était toujours ça,
c'est
son...
C'est bon, ça.
C'était toujours ça, son but.
C'est quelque chose que je pourrais jamais faire de ma vie, ça.
Ben, surtout pas maintenant, là. Mais éventuellement, bref.
Il y a pas d'éventuellement, là.
Hein?
Il y a pas d'éventuellement, bref. It's not happening.
Tu penses que tu seras jamais aussi bon que ça?
Oh, bro. Hey,
faudrait-tu ça... vivre vraiment vieux?
Shit. 114.
On veut pas que tu vives jusqu'à 114.
Ah, non.
Léo Burke, de son côté, ben, Léo Burke, lui, il a, évidemment, il a été lutteur. Il a lutté ici à la fin des années 60. Mais c'est surtout dans les années 80 qui a été important. Il est revenu ici comme lutteur. Puis il a été booker aussi. Il a, c'est lui qui a booké quand même la rivalité Garvin contre Rougeau. C'est lui qui l'avait booké. En 85. Donc, il a été booker ici, il est parti, c'est Rick Martel qui a pris le book, il est revenu après que Rick Martel est booké, et puis il a même été, ça c'était pour l'international, mais il a été également la NWA, quand elle a été en français à TQS.
Oh, pour vrai?
Oui.
Je savais même pas que ça avait été en français à TQS.
Ça a pas été là longtemps, c'était durant la run à Ronnie Garvin comme champion.
14 jours?
Non, mais je pense que c'est... je sais pas, j'ai le goût de dire moins d'un an, entre 6 mois puis un an. Puis c'était le commentateur Hill. Il travaillait avec André Bellil. André Bellil qui faisait aussi les matchs des Nordiques à TQS. Et puis à un moment donné, ben on a dit à André Bellil, les Nordiques en fait lui ont dit de choisir. Parce qu'il dit ça fait pas sérieux d'annoncer la lutte puis d'être la voix des Nordiques.
Une chance que les temps ont changé, man.
Les temps ont changé, hein. Alors, Léo Burke, lui, c'était le commentateur. Je l'ai rencontré une ou deux reprises à Las Vegas. Léo Burke, un bon monsieur. Donc, voilà les deux nouveaux intronisés au Temple de la renommée de la lutte au Québec. Parlant de lutte au Québec, lutte québécoise. Lutte québécoise. Lutte québécoise.
On recommence.
Lutte québécoise. Lutte québécoise.
Laissez pas tranquille!
Bon, il s'en est beaucoup passé sur la scène québécoise dans les derniers jours, les derniers week-ends. Jeudi soir, tu te rappelles la semaine passée? Mm-hmm. Je te disais que Mystery Wrestling d'Evo Luno,
ouais,
elle était pour utiliser des gars des EW, c'est sûr, mm-hmm, des gars des filles des EW. Écoute bien, il a pas annoncé un match là. Voici le line-up qu'il a livré. Orange Cassidy était là. Il y avait Jody Threat. Il y avait Eddie Kingston. Il y avait Brandon Cutler. Et en finale, c'était Mike Bailey contre Ortiz, contre Trent Seven, contre Mathieu Saint-Jacques.
Dude!
Ça, c'est... Il y avait plus de 200 personnes qui ne savaient pas. Il y avait Eddie Kingston
mais
qui avait été annoncé.
Mais je comprends pas qu'il y a pas plus de monde.
Mais c'était un jeudi soir.
C'est un line-up incroyable.
Ben oui, mais il avait pas été annoncé.
Je comprends, mais là, le prochain, là, les gens vont faire comme au shit.
Mais attends, oublie pas, là, AEW est à Montréal. Fait qu'il y avait accès à du talent.
Ah, j'en vois.
Il y avait Excalibur commentaire avec lui. Avec
hein?
Oui. Puis il y avait Bryce Ramsburg, l'arbitre, qui faisait un séminaire dans la journée.
Ah, ça, c'est cool, ça.
Oui. Ben, c'est normal. Il y a les contacts.
Ouais.
Il y a une promotion à 2 heures de route.
Puis il est dans le building
puis,
aussi.
Puis le jeudi... C'est le lendemain de Dynamite, donc les gars, les filles, il reste juste une journée de plus.
Ouais, faire un petit payday de plus, là.
Ben oui, exact. C'était très, très, très smart de sa part. Donc,
il est bon, Evo Luna.
Donc voilà, du côté de Mr. Wrestling.
11 billets vendus.
11 billets vendus pour la Place Belle.
Ouais.
C'est un début.
Ouais, ça fait même pas une heure.
C'est un début.
C'est très bon, je suis très fier.
Du côté de vendredi soir, il y avait la ICW. Qui faisait son retour dans Schlaga Maisonneuve. Puis j'ai fait un article là-dessus, vous irez voir sur lutte.québec. On décide de donner une offre culturelle.
Oui.
Gratuite,
oui,
aux gens du quartier. Et c'est la lutte. Et ça, je trouve ça magnifique. Magnifique qu'on choisisse la lutte comme offre culturelle.
La lutte est rendue loin, hein?
Elle est rendue au Diamant, au Théâtre des Escaires, puis elle est rendue à gratuitement dans la Maison de la Culture, Maisonneuve. Il y avait 185 personnes. La salle, elle est vraiment, vraiment belle.
Ah ouais?
Ah oui,
pour vrai. Je veux la voir.
C'est une maudite belle salle.
Combien de personnes peuvent rentrer là environ?
232, bien précisément, je pose la question. Tiens,
regarde. Pour des shows de lutte.
Il y a des photos, là.
Tu me les enverras.
Ouais. Oui, pour de la lutte.
230, c'est quand même pas pire.
232, ouais. Et puis...
Ben, plus de monde aurait roulé ça.
La beauté de la chose, c'est que ça coûte rien aller voir ça.
Ouais, ça c'est fou.
Donc, c'est la ville qui offre le show aux gens du quartier. Donc, vraiment, vraiment, c'était cool. Il y avait Marco Estrada qui était sur le show, Steve Ace, Frankie the Mobster, James Saint... Il y avait Brad Alexis, il y avait la recrue Thomas Quintal, Lucky Ranger, un vieux de la vieille, excusez-moi, de la ICW, Sly Silverstone également. Donc, il y avait bien du monde. Et puis, c'est le fun, le maire d'arrondissement, Pierre Lassablais, est passé. Celle qui travaille plus avec la députée du quartier, elle était là également.
C'est-tu toi qui book?
Moi, je book rien.
C'est qui book les lutteurs?
C'est la ICW.
OK.
C'est la ICW, ouais. Non, moi, j'avais fait un show à côté de là cet été en conjonction avec la réouverture de la bibliothèque.
OK.
Mais là, la ICW, ils sont dans Hochelaga depuis 90. Tu sais, c'est une institution, la ICW, l'UJPRU, la promotion à l'UJPRU. C'est une institution dans Hochelaga Maisonneuve, donc c'était pour moi un choix logique. C'est eux autres qui font des shows lors de la promenade, la vente trottoir. Mm-hmm. Donc, la promenade Ontario, la vente trottoir depuis la nuit des temps. Donc, pour vrai, c'était une belle soirée. Puis très, très, très content. Vous allez voir l'article que j'ai écrit sur le lutte.québec. Samedi, à Québec, c'était la NSPW, dernier show de l'année, Final Chapter. Kevin Blanchard a gardé son titre contre Alex Silva, mais les deux étaient babyface. Et rare, c'est rare, ça arrive. Les deux ont tourné heel après.
Wow!
Fait que ça, c'est quand même assez
c'est nice.
Créatif du côté de Michael Bisson et de son booking. Zach Patterson.
Qu'est-ce qu'il a fait encore, lui?
Ben, il arrête pas. Il fait, depuis une coupe de show, le Diamond Dynasty Invitational.
OK.
Et c'est toujours un jobber. Là, il a battu un gars qu'ils ont appelé Ray Dorado numéro 6.
Numéro 6, les gars sont cons.
Sauf que là, il y a eu une surprise à la fin de son match. Mm-hmm. Puis on a annoncé qu'à Golden Opportunity 14, au mois de juin, ben les billets sont déjà en vente parce que c'est au pavillon de la jeunesse.
C'est vrai.
Il va affronter Matt Riddle.
Ça, c'est fou. Yo, Zach, là, tous les outsiders, c'est Zach qui est pogne. Mais ça, c'est une grosse marque de confiance de tout le monde. Là.
Ouais.
Comme on amène Jay White, on te le donne. Yo.
Ouais, en fait. Mais tu sais, il en donne à d'autres. Là. Toxic avait eu Kenta. Tu sais, Michael va vraiment y aller avec le meilleur fit pour ce lutteur-là. Et Matt Riddle, contre Zach, vraiment, vraiment hâte de voir ça. Lou O'Farrell a gardé son titre Junior Heavyweight contre Rose. Puis elle a triché. Puis elle continue à être heel. Suite au match de Lou. La NSP a annoncé, et là, je suis vraiment content parce que ça me concerne, qu'à partir de 2024, au Centre Horizon, le Centre Horizon va devenir la maison officielle de Femmes Fatales.
Nice, félicitations.
Donc, on ne fait plus de show un peu partout. L'année 2023 a été difficile. Là, on s'en va au Centre Horizon.
Mais c'est gros, Centre Horizon, non?
Quatre fois, c'est où la NSPW fait leur show.
Ouais.
Quatre fois dans l'année, des samedis soirs, en avril, en juin. C'est le premier show, c'est le 27 avril. On a ensuite une date le 29 juin. Et ensuite, on va avoir deux autres shows. Fort probablement septembre puis décembre, mais ça reste à confirmer. Mais quatre shows, on va prioriser le talent local avec des storylines, avec des tu sais, on va vraiment bâtir quelque chose là.
Je trouve que c'est une excellente idée, moi.
Donc, on était bien, bien, bien contents.
C'est une excellente idée.
C'est annoncé. Les billets pour le 27 avril, d'ailleurs, sont déjà en vente. Si vous allez sur le point de vente, Femme Fatale NSP, W.
Je me le mets toujours dans l'horaire. Je suis jamais capable d'aller, mais je me le mets quand même dans l'horaire.
Pour le 27 avril, qui est le premier show. Ensuite, Untouchables ont gardé les titres par équipe contre Kevin Martel et son fils Sean.
C'est pavillon de la jeunesse?
Martel,
centre de la jeunesse.
Centre Horizon. Dans Limoilou. Donc, les Untouchables qui ont gardé leur titre. Benjamin Toll qui a battu Michel Plante. Et puis l'Union qui a battu les Wonder Boys dans un Fan apporte les armes. La version française de Fans Bring the Weapons. Donc, gros show. De ce qu'on m'a dit, ça a été un des meilleurs shows de l'année à la NSPW en termes de lutte. Voilà. La NSPW, ce samedi, va être à Amos.
Amos. Et
c'est moi qui va animer le show.
Ah, pour vrai? Ça va à Amos, man.
Ça va à Amos.
Loin.
Ben, c'est loin. Mais j'ai un de mes amis qui va être sur le show, San Francisco, qui habite à Amos.
Tu prends l'avion?
Ben non, je vais en auto.
Es-tu malade, toi?
Donc voilà. En fait, il va y avoir trois lutteurs d'Amos sur le show. Quand même spécial. Okay. Amos, c'est qui est trois lutteurs. Donc, il va y avoir aussi Matt Falco va être là. Zach va être là contre Benjamin Todd en finale.
Dis bonjour à Zach pour moi.
Donc, c'est au Théâtre des Oscars, donc c'est dans un vrai théâtre. On était là l'an dernier aussi.
Ah, ça, j'allais dire, t'es allé l'année passée.
Oui, exact. Je l'avais pas animé, mais là, cette année, je l'anime.
Vous avez fait le party.
On avait fait, effectivement, je me suis réveillé avec une demi-bouteille de une moitié de bouteille de Corona et des Ringolos dans mon lit.
Mmh.
Je me suis dit, j'avais passé une belle soirée. Et puis... Et je vais faire un retour sur Battle War. Battle War, c'était dimanche. Il y avait beaucoup de luttes là, en fin de semaine. Battle War, c'était dimanche. C'était le show du temps des fêtes. C'est toujours le show le plus rempli. Il y avait du monde là au Fofone électrique. C'était fou. Benjamin Toll a gardé son titre contre Monsieur VIP Mitch Thompson dans un No Holds Barred. Il y a Manon Saint-Jacques qui a affronté Michel Plante. Et puis Junior Benito et les frères Gray qui ont affronté Leon Saver et les champions par équipe de Battle War, les Wonder Boys. Donc, dans un des matchs de l'année au Québec. Junior Benito et les frères Grey contre Leon Saver et les Wonder Boys. La salle était pleine. C'était un bon show de Battle War. Puis, il y a eu le spot du sapin.
Ouais, j'ai vu ton tata
qu'on a à chaque année. Je termine Lutte québécoise avec ce samedi du côté de la NCW à Sainte-Anne-des-Plaines au centre Jean-Guy Cardinal. Quand même un gros aréna dans la couronne nord de Montréal. Mais la NCW présente Noël d'enfer, son spectacle de fin d'année habituel. Le champion québécois de la NCW, Sean Mason, va affronter Carl Jepson. Les champions par équipe, Judas et Seth Cassidy, vont être là contre Casanova Production. Lufisto va affronter Chris Tara. Chris Tara qui est pour moi la sensation de l'heure dans la lutte féminine au Québec. Casey Diamond, Leon Saver et plusieurs autres vont être là. C'est 19h30 du côté de Sainte-Anne-des-Plaines. Le Japon. Kev Okada va être à TNA pour la première fois depuis 2011.
Puis le vidéo était malade.
Le patinet veut aller aux États-Unis.
Ben là, non, ben attends. Juste le fait qu'il règle ce problème-là, parce que New Japan voulait même pas travailler avec TNA pendant longtemps à cause de comment ils ont géré Okada. Okada voulait rien savoir de TNA pendant longtemps. Puis c'est Bret Hart qui revient à WWE. Là. C'est à ce point-là qu'il y avait un énorme beef entre les deux. Puis c'est sûr que je regarde le pay-per-view parce que ça fait aucun... Dans ma tête, c'était impossible de revoir Okada sous la façon qu'il parlait de TNA là-bas. Puis ça montre encore une fois que Scott D'Amore est en train de faire du travail intéressant là-bas. Donc,
ouais, ça va être Snake Eyes, le nom de l'événement, le 14 janvier prochain en direct de Las Vegas. Okada va faire équipe avec Sabin et Shelley, les Motor City Machine Guns, contre Moose, Brian Myers et Eddie Edwards. Il y a également Will Ospreay qui va être sur le show contre Josh Alexander.
C'est le deuxième.
Donc ça va être un gros événement. On sait maintenant qui a remporté le World's League Tag Team du côté de New Japan. C'est Hiroki Goto et Yoshihashi qui ont défait El Fantasmo et Ikou Leo.
C'est la fois que Goto peut faire.
C'est la troisième fois consécutive qu'il gagne le tournoi. Puis c'est la première fois qu'une équipe championne à IWGP gagne le tournoi. Parlant de New Japan, ben ils ont un nouveau titre, eux aussi. Ils vont, dans le fond, ils ont renommé le titre IWGP États-Unis ou United Kingdom et ils vont appeler ça le Global Championship. Parce que le titre est rendu global et non pas juste IWGP États-Unis.
Comment je t'ai regardé?
Ben, je le sais.
Okay.
Je le sais. Par contre, le match triple menace pour déterminer le premier champion à Wrestle Kingdom, ça va être fou. Jon Moxley contre Will Ospreay contre David Finlay.
Moi, je suis surpris que New Japan sorte des triples menaces d'un, mais il n'y avait pas ça avant. Là.
C'est vrai qu'on voyait rarement des
triples menaces. Rarement, les triples menaces. Ça fait depuis cette année, là, triple menace à gauche. Mais avant, c'était man to man, puis tag team contre tag team, puis that's it. Là. Je dis pas que c'est pas bon, mais c'est juste...
C'est un changement de philosophie.
Ouais.
Le Tokyo Sports qui a sorti ses prix de l'année pour le Japon. On va voir si tu penses comme eux. MVP de l'année au Japon. Pas New Japan, au Japon.
Ah, ben là,
même si New Japan, New Japan. Même si ben, c'est New Japan qui domine.
Okay.
MVP.
Okada ou Will Ospreay?
Tetsuya Naito.
Ah, ben il a gagné G1.
True. Le meilleur match. Et là, tu sais. Non, je vais te le dire parce que tu le trouveras jamais. Et souvent, c'est des plus old school qui votent pour ça, je pense. Great Muta contre Shinsuke Nakamura.
Mais non, bro.
La meilleure
après lutte... tout ce qu'on a vu au G1, après tout le G1, c'est Great Muta! Non, il est fou, minuit 16, vous me faites crier, là. Fucking Great Muta! Le Great Muta! Tabarnak!
La meilleure lutteuse, c'est Tam Nakano du côté de Stardom. Outstanding Performer, ce serait qui?
Okada?
Non. Hiromu Takahashi.
Ah, OK, oui, ça va ça.
La meilleure équipe?
Ben, Goto puis Yoshihashi.
Et la recrue de l'année, je sais pas si tu connais, je sais pas où ils luttent exactement, j'ai pas fait de recherche, les Saito Brothers, Rei et Yun Saito.
Ça me dirait.
Bref, c'est peut-être des gars qui vont pogner ton radar éventuellement. Fred, Kev, c'est le temps de la question pour le concours. Pour une paire de billets pour le centre, la Place Belle, 28 décembre, 19h30. 19h30. Mais,
vous irez checker sur Internet.
C'est le house show de la WWE, événement non télévisé. La question est la suivante. Quel lutteur était dans la loge et a pris une photo avec Taylor Swift? Quel lutteur?
Mais là, j'ai le droit de le dire.
Non! Ils iront l'écouter.
Mais ils l'ont entendu déjà.
Tu sais pas. Peut-être qu'ils faisaient d'autres choses.
Okay.
Parce que là, ils l'ont pas entendu. Ben oui, tu dis rien.
Je pourrais les aider.
Non, tu les aides pas. C'est pas Noël.
I'm happy. Et
non!
J'ai rien dit!
Ta gueule! Ma
j'ai rien dit!
Canette vide.
J'ai rien dit!
Donc, vous m'envoyez
ça.
Hey!
J'ai rien dit!
Vous m'envoyez ça sur mes DM, que ce soit Facebook, Twitter ou Instagram. Et puis, je vais faire tirer la paire de billets parmi toutes les bonnes réponses. Coup de cœur. Non!
Non, j'ai dit un coup de cœur.
C'est quoi que j'ai ici? Ah oui, ben c'était la promo de CM Punk. OK. Excuse-moi, je l'avais.
Promo de CM Punk de Vancouver.
De SmackDown.
De SmackDown.
De SmackDown, oui. J'ai bien aimé Axiom et Nathan Fraser dans le pre-show d'NXT Deadline. Axiom a vraiment du talent, là.
Ah oui.
Puis Fraser aussi, là. Mais les deux, là, ont fait vraiment un très, très, très bon match. Jey Uso et Drew McIntyre.
Yo, c'était vraiment bon, man.
C'était bon.
Puis Jonah, puis l'autre aussi, c'était bon.
Branson Reed.
Les
Ivar.
Excuse-moi. Branson Reed, puis Ivar aussi, c'était bon. Wright, t'es pas mauvais. C'est juste Maxine, puis Rhea Ripley.
Faut que je te raconte une anecdote. Je parle à Gino Brito cette semaine.
OK.
Puis Gino, il me dit. J'écoutais la lutte, là. Il dit freaking, là. Freaking shows, là. Ouais, Seth Rollins. Ouais, il dit. Il est bon, hein. Ah, il dit. Parle au micro, puis il est capable de lutter, puis il dit le match, là, Jey Uso contre. C'était quoi la finale? C'était quoi le match le Raw d'avant?
Jey Uso contre Drew McIntyre.
Ah, ben c'était Jey contre Drew, c'est ça, ça avait fini avec Jey contre Drew. Il dit, hey, c'était-tu un assez bon match, ça? Il dit, les gars, là, ils sont tellement meilleurs que nous autres, on était dans notre temps.
Oh, ben là, c'est sûr, là.
mais. Dans la même semaine, j'ai parlé à quelqu'un d'autre, un autre vétéran de la lutte au Québec, qui pour lui, il est pas capable de s'adapter à la lutte d'aujourd'hui.
Ouais,
mais Gino, à 82 ans, lui, il comprend encore comment ça fonctionne. Puis j'ai trouvé ça merveilleux de l'entendre me parler de comment c'est des athlètes.
Je trouve ça cool.
Puis comment, genre, il aime écouter encore ces matchs-là. Je trouve ça vraiment, vraiment cool.
Très d'accord.
Ouais. Le Iron Survivor Challenge féminin. M'a surpris. Toi, tu te rappelles le Survivor Series?
Oui.
War Games t'avait surpris. Moi, c'est le Iron Survivor Challenge d'NXT Deadline. Blair Davenport, Fallon Henley, Tiffany Stratton, Lash Legend et Kelani Jordan. Tiffany Stratton, c'est une star en devenir.
Superstar. Ben, elle est déjà une star.
Non, mais quand on va avoir la machine derrière elle, tu comprends?
Ouais.
Là, elle l'a pas encore. Mais c'était la meilleure par 1000 dans ce match-là. J'ai adoré. Kelani Jordan a fait un sacré beau 450. Il était fluide. Pour vrai, j'ai adoré ce match-là. T'as écouté un peu de Deadline? Ouais.
Ben, j'ai écouté les gros ouais. matchs, les gros
J'ai plus aimé le Iron Survivor féminin que masculin.
À part quand Bron Breakker est rentré, il n'y avait pas grand chose, là. Mm. Quand Bron Breakker est rentré, faut que je dise que j'ai pop, là. J'étais comme, yo, un par un, bring ouais. it on. Mais ouais, après ouais, ça, ouais, j'ai fait, ouais.
Moi, j'ai rien d'autre parce qu'on n'a pas de Dynamite cette semaine. On l'a fait la semaine passée.
C'est vrai, on n'a pas de Dynamite.
C'est Rob SmackDown. Puis on a déjà parlé de CM Punk.
Ouais.
Moi, j'ai rien d'autre.
Alors, on va parler de Maxine.
Avertissement. Avertissement. Ce segment pourrait contenir des critiques négatives.
Sois pas trop dur avec Maxine.
Mais, je vais juste passer le commentaire. Je serais pas trop dur, mais à partir du moment où vous me dites que Jake Cargill est pas prête, arrêtez de la faire lutter, Maxine! Enlevez-la de la télé! La pauvre madame! Damn. Elle sait pas ce qu'elle fait!
Damn.
Elle s'aidait pas pantoute! Dans le milieu, il y a une expression, une patate, pas une patate, mais c'est pas l'expression que je voulais dire. Mais elle était lourde. Tu sais, elle s'aidait pas. Elle est pas lourde, là, Maxine. Mais quand tu t'aides pas, les gens réalisent pas. On dirait que, tu sais, mettons, tu fais un powerbomb, l'autre, faut qu'elle se donne un swing. Elle sait pas donner de swing, la madame! Je voulais dire qu'elle était lourde comme une patate. Je sais pas pourquoi j'ai dit patate tantôt.
C'est correct. Tout le monde avait compris.
Mais, écoute, même sur le Riptide, ça a été compliqué. Elle vendait comme de la marde. Comme de la marde. Elle tapait out, là.
T'attends à quoi quelqu'un qui a 5 matchs dans le business?
Mais mets-la pas à la télé, de bord.
Ça me dérange pas, cette conversation-là. Mais du moment qu'elle était à la télévision...
Je vais la critiquer.
Exactement, puis il faut pas s'attendre à mieux. Je vais pas être plate, mais c'est ça la vérité. Là. Elle a 5 matchs dans le business. Puis ils l'ont mis dans une situation avec la championne du monde. Là.
Mm. Ils ont donné une amende de 50 000 $ à Randy Orton pour avoir fait un RKO à Nick Aldis.
Mm-hmm.
Ils donnent un chèque de 100 000 en disant l'autre pour la prochaine fois. C'est une menace!
Mm-hmm.
Puis... Si ça coûte juste 50 000, il va leur faire, puis il va leur faire, puis il va leur faire. Mm-hmm. Là, ils viennent de créer un précédent que si t'attaques un directeur général, ça te coûte 50 000 à chaque fois, puis that's it.
Mais il me semble que...
C'est tu passes...
C'est là, pas la première fois que ça coûte 50 000. Le Ronda Rousey, ça avait coûté 50 000.
Tu passes à la place du parc ou sur promenade, là, c'est 50 000 de la shot à chaque fois que tu passes là. That's it. Pas de suspension, rien. Pourquoi il a pas été suspendu? C'est 50 000. Parce que là, il va leur faire une autre fois. Il a déjà donné une avance. C'était ridicule. Ring of Honor. Final Battle 2023. J'ai une question pour toi.
Mm-mm.
C'est quoi Ring of Honor? Parce que je vais juste te dire la carte de Ring of Honor. Puis je veux que tu m'expliques c'est quoi Ring of Honor.
La carte, c'est tout du monde de AEW.
Keith Lee contre Shane Taylor.
Ouais.
Dalton Castle, Commander, Lee Moriarty, Lee Johnson, Carl Fletcher,
mm-hmm.
dans un Survival of the Fittest 6-way.
Mm-hmm.
Athena contre Billy Starks, qui est main
mm-hmm.
event.
Mm-hmm.
Ethan Page contre Tony Nese.
Mm-hmm.
Et John Moxley, Claudio et Danielson contre FTR et Mark Briscoe. C'est quoi mm-hmm. Ring of Honor? C'est-tu AEW? Mm-hmm. C'est-tu pas AEW?
Mm-hmm.
Je comprends pas c'est quoi.
Mm-hmm. Pourquoi tu me poses la question?
J'espérais que tu as eu une réponse.
Es-tu malade, toi? J'ai pas de réponse, mais on n'a pas de réponse à ça depuis 10 ans.
OK.
Hey, t'espérais que j'ai une réponse.
T'as-tu d'autres avertissements?
Ben non, mais juste. Soyez pas trop dur avec Maxine, OK? C'est
non! Juste ça, mon point. Non, il faut être dur.
Mais je comprends ce que tu me dis. Je suis pas con ce que tu me dis. C'est juste. Elle a 5 matchs dans le corps, il aurait jamais dû la mettre dans cette position-là. Puis tu voulais qu'elle dise quoi? Tu voulais qu'elle dise non, je lutterai pas. Ils l'ont mis dans une mauvaise position, sachant très bien ce qui allait arriver. C'est tout ce que je dis.
Ben, je dis pas qu'ils sont pas plus coupables, mais en même temps, elle était pas bonne.
Mais moi, je te dis juste, c'est quoi mon opinion là-dessus, that's it.
Nostradakev. Hey, Nostradakev de fin d'année, Kev, fait qu'on se fait une mise à jour.
Ah, oh, nice! Oh non, pas nice. J'ai vu ta face.
Ah, OK. Est-ce que le match entre Kevin Raphael, Benjamin Toll et Lou contre Marco Estrada, Mariana Mazza et Zach Patterson va avoir lieu d'ici la fin de l'année?
Non.
T'avais dit non.
Ah, OK.
Et la réponse était non. Ah non, excuse-moi. Non. t'avais, ça, c'est une question qui datait de 2022. Okay. T'avais dit non.
Ouais.
C'était pas arrivé en 2022. Ouais. Et là, il y avait une sous-question, mais d'ici 2023, il t'avait dit oui. Et c'est, ça n'arrivera pas d'ici 2023. Tessa Blanchard avec une promotion majeure d'ici la fin de l'année. T'avais dit oui? La réponse est oui. CMLL est régulière à CMLL en ce moment. CMLL, c'est la plus vieille promotion de lutte au monde.
OK.
C'est majeur.
Hey, Justine rien, Justine personne.
Mais non, t'es sûr, t'as une bonne réponse. Est-ce que Sasha Banks et Naomi seront à Raw ou à SmackDown? T'as répondu SmackDown. Là, ça fait trop longtemps, cette question-là. J'ai fait du ménage dans la question.
Okay.
Là, ça fait trop longtemps. Écoute, si jamais ils reviennent, on repose une autre question, mais là, la réponse est non. Ils sont jamais revenus à WWE. Une est à Impact, l'autre est blessé, puis il va sûrement signer à AEW. Daddy Ass contre Jeff Jarrett. Est-ce qu'on va voir ça?
Je te dis oui.
Je te dis oui.
Oh boy. J'ai pas accepté.
Le prochain lutteur des AEW à New Japan, t'avais dit Bryan Danielson. Il est à Wrestle Kingdom, Bryan Danielson.
Ah!
Mm-hmm. Où se retrouvera Bo Dallas? T'avais dit Impact. Écoute, il a fait des trucs à WWE avant que son frère décède. Son frère est décédé. Je sais pas si on va voir Bo Dallas. Je vais l'enlever, là. Il est pas Impact. Good, il est pas Impact. Non, non. C'est non.
Ah, c'est non?
Ben, il a jamais été Impact.
Okay.
Puis là, on met un cut-off au 31 décembre. Mark Briscoe va gagner un titre cette année. T'avais dit oui, il n'en a pas gagné. Est-ce qu'on va revoir Vicky Guerrero à la WWE? T'avais dit oui, on l'a pas revu. T'avais dit Goldberg à AEW, est-ce qu'il va arriver? T'avais dit non, il est pas là non plus.
Ah,
ça, c'est bon. Et finalement, est-ce qu'on va revoir Randy Orton dans un ring? T'avais dit oui. Et évidemment, il est revenu.
Enfin.
J'ai des stats, Fred. Alors, mon cher Kevin, depuis qu'on fait ça, la dernière fois, je t'ai donné un update.
Moi, tout ce que je veux, c'est plus que 20%.
La dernière fois qu'on a vu un update, c'était le 27 septembre 2023. Okay. Et t'avais 36% de bonnes réponses.
Tout ce que je veux, c'est plus que 20.
Et là, avec ces nouveaux ajouts-là, tu as 42 bonnes réponses, 71 mauvaises réponses. Donc, tu en as 42 de bonnes sur 113 pour un pourcentage de 37. Tu as amélioré ton score de
1%
depuis le mois de septembre.
Yo.
Ou au baseball, tu frappes pour 372.
Excuse-moi, c'est très bon. Hein?
Alors, une question sur toi, tu l'as. Tu as quand même une pas pire boule
c'est
de cristal.
C'est quand même très bonne.
Tu as quand même une pas pire boule de cristal. Parlant de boule de cristal, prédiction. Prédiction. On va faire les prédictions, Kev, pour Wrestle Kingdom, puis les trois matchs ou deux matchs qu'on a de World's End, okay. Vu que c'est notre dernier podcast régulier. Wrestle Kingdom, vous le savez, dans la nuit du 3 au 4, donc ça va commencer à 2h30 du matin, notre heure. Sanada, le champion IWGP, qui va défendre contre Tetsuya Naito.
Il parle le titre.
Donc, Naito va gagner.
Moi, mm-hmm.
Ouais, je pense, moi aussi. Okada contre Danielson.
Okada chez eux.
Mm-hmm. Ouais. Le tout premier championnat global IWGP, on en a parlé tantôt. Will Ospreay, John Moxley, David Finlay.
Ça va être David Finlay.
Ah ouais?
Mm-hmm.
Tu penses qu'il va envoyer Ospreay pour la grosse belt après?
Ouais, mais c'est juste solidifier le clan de Finlay.
Ah.
Puis Moxley peut prendre un pin, là.
Les champions junior heavyweight par équipe. IWGP, Imoru, excuse-moi, le champion junior heavyweight IWGP, Imoru Takahashi contre El Desperado.
Takahashi
va conserver. Les champions par équipe IWGP, Hiroki Goto et Yoshihashi contre les champions strong open weight par équipe, Ikuleo et El Fantasmo pour les deux titres.
Goto puis.
Ah, tu penses qu'ils vont les garder?
Mm-hmm.
Fait, ils leur ont donné le World League. Puis, ils vont gagner les autres titres.
Ils bâtissent la division par équipe. Elle n'était pas strong avant. Là.
Je comprends. Elle était-tu strong open weight?
Pas tard pour ça.
Yes.
Man,
le champion, les champions plutôt par équipe, junior heavyweight, Clark Connors et Drilla Maloney. Y est-tu bon, Drilla Maloney? Contre TJP et Francisco Akira.
J'ai aucun intérêt.
Le champion...
J'ai bien fait lâcher des frites, moi, je les ai finis.
Ben oui, le champion télé, Zack Sabre Jr. qui va affronter Hiroshi Tanahashi. Je suis curieux de voir ça.
Ça va être... Ben, il va affronter qui?
Zack Sabre Jr. contre Tanahashi.
Ben non, mais moi, je suis pas intéressé à voir ça. J'ai vu Tanahashi pas courir dans le G1.
C'est vrai.
Moi, Tanahashi, là, je suis prêt à prendre un an de break, là.
Mais j'ai pas dit intéressé, j'ai dit curieux.
Curieux à voir quoi?
À voir Tanahashi pis Sabre.
Résident Soleil?
les résidences.
Qui va gagner?
Là, ça va être
Saber. Et Shingo Takagi contre Tama Tonga pour le Never Open Weight Championship.
Takagi.
Takagi? Mm-hmm. Du côté de du côté des EW World's End, il y a deux matchs qu'on connaît. Dans le fond, il va y avoir la finale de la Continental Classic. Mm-hmm. Ça, on le sait. Par contre, il va y avoir également MJF contre Samoa Joe, qui gagne. C'est le 30 décembre, en MJF. Passant du côté de Uniondale. MJF. Mm-hmm. Et puis, l'autre match, c'est Ricky Starks et Big Bill, qui vont défendre les titres par équipe contre les Golden Jets, Chris Jericho et Kenny Omega.
Ah, ça ne m'étonnerait pas qu'ils mettent sur Jericho puis Omega.
Mais moi non plus. Moi non plus. Je pense qu'il y a quelque chose à aller chercher là. Tu sais, surtout avec les Bucks qui ne seront pas là. Fait que, tu sais, on n'aura pas l'élite, là, bientôt.
Là, on s'entend, là.
Puis, ça pourrait amener les Bucks contre Jericho puis Omega après.
Oui, 100%.
Ça pourrait être une façon de ramener les Bucks.
100%.
On vous rappelle qu'on n'aura pas, pour ceux qui nous suivent sur notre Patreon, sur Keybook, on n'aura pas de lendemain de pay-per-view le 31 décembre.
C'est le temps des fêtes. 31 décembre.
C'est ma fête à moi. Alors, on la prend off, celle-là.
Non.
On va vous en parler dans celui qu'on va faire
pour
Wrestle Kingdom. Le quiz. C'est l'heure du quiz de notre ami Jérôme Jacques, Double J. Actuellement, quelle est votre émission préférée de la WWE entre Raw ou SmackDown?
Raw. J'aime mieux Raw.
Moi, c'est Raw, ces temps-ci.
J'aime mieux Raw.
Ouais. Quel est votre Dudley préféré entre Devin et Bully Ray?
Bully.
C'est Bully.
Attends.
Non. Le lutteur, c'est Bully Ray.
Non. Attends. Il a bien spécifié Dudley, though. So, dans leur forme de Dudley, c'est Devon Dudley. Moi, j'aimais plus. Waza! Mais non.
Moi, comme lutteur, j'aime mieux Bully Ray.
OK.
Qu'est-ce qui arrivera en premier entre Nick Nemeth? Dolph Ziggler va s'appeler Nick Nemeth là, sur les Indies. Il y a une date de prévu à Porto Rico, je pense. Nick Nemeth qui débute à AEW ou Mercedes Moné qui retourne à la WWE.
Ouh, je pense que... Oh, qu'est-ce qui va arriver en premier?
Moi, Nick Nemeth à AEW.
Nick Nemeth parce que Mercedes, on sait pas quand...
Non, puis je pense pas qu'elle va revenir à WWE.
Moi, je serais pas surpris.
Il parle de mettre Nick Nemeth peut-être avec CJ Perry.
Ça serait bon.
AEW.
Ça serait bon.
Ils avaient déjà été ensemble.
Ouais.
À WWE.
Tu sais, pour continuer à mettre de la marde dans le vestiaire, là. Je dis ça de même. Je dis ça de même, là. Ils ont sorti ensemble.
Hey, c'est déjà tout pour nous. N'oubliez pas d'aller vous abonner sur notre Patreon. N'oubliez pas d'aller vous acheter des billets pour...
Antipode Live 6, Place Belle. Va sur le point de vente, tape Antipode. Il y a déjà des billets vendus.
Le show commence à 4h, 16h. Donc,
pile.
Soyez là.
Heure québécoise.
Exactement. Au nom de Fred Poirier, celui Kevin Raphaël. Mon nom est Pat Laprade et je vous dis à la semaine prochaine. C'est un rendez-vous. Hey, on l'a fait, Kev. On l'a fait.